L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, comme l'émission, comme le magazine. C'est un module radio qui se pose dans vos oreilles à midi et qui s'y rediffuse à 18h. Aujourd'hui, on évoque un sujet qui a longtemps été tabou, comme inimaginable. Quand on parle de naissance, donc on dit souvent un heureux événement. Or, il se trouve que même quand on a souhaité ce bébé, eh bien, parfois on tombe dans un trou. Pas juste un baby blues qui dure quelques jours après l'accouchement, qui est lié notamment au bouleversement hormonal. Non, c'est bien une dépression postpartum dont il est question. Donc c'est long, c'est profond. Notre invitée l'a vécu. Elle en a fait une bande dessinée intitulée Baby Bleu. Bonjour Marionnelle.
Bonjour.
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la dépression postpartum avant que ça vous arrive ?
Vaguement, un petit peu, dans une ou deux séries, mais pas plus que ça.
Ah, il y avait quand même des séries télé déjà qui se...
Y évoquent, mais en général très très froidement. Ça donne le rôle d'hystérique aux mamans à qui ça arrive, en général.
Ah oui, donc c'est pas exactement... C'est pas cliniquement fiable. Et vous aviez pas de terrain dépressif particulièrement, enfin...
Assez angoissée, avec des dépressions qui n'ont jamais vraiment été soignées avant.
Ah ouais, ça explique peut-être cela, enfin vous nous
en disons. Grande partie, ouais.
Et la naissance, c'est en quelle année pour qu'on situe
En 2020, et elle est née 2 jours avant le confinement. Et on est sorti de la maternité le jour du premier confinement.
Alors, comment ça s'est manifesté ? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un récit ?
Après la naissance, j'ai été très, non pas détachée comme ça peut arriver parfois dans certaines dépressions, mais trop attachée, persuadée qu'elle allait mourir à chaque instant. Je ne dormais plus, on ne pouvait pas la laisser sans surveillance, toujours quelqu'un avec elle.
Même le petit monitoring, ça ne suffisait
non.
pas ?
Ouais.
Ah ouais.
Je me rendais compte que quelque chose... n'allait pas bien parce que elle allait bien, tout se passait bien, mais moi j'arrivais pas à la lâcher une seconde. Vraiment persuadée que si je la quittais des yeux, elle mourrait, ça serait de ma faute.
Donc vous dormiez pas ?
Non.
Quasiment pas, voilà.
Donc la fatigue s'accumule. Par-dessus tout ça, il y a eu le confinement et le Covid, donc une période vraiment floue et un peu angoissante pour tout le monde. Et du nouveau, quoi. Tout était neuf, devoir s'occuper d'un enfant en continu, devoir... gérer tout ça, redéfinir son rôle, et voilà.
Y compris le rôle avec votre conjoint, hein. Enfin ça se passait bien avec votre conjoint, enfin, vous n'étiez pas maman solo. Quoi.
Non, un papa très investi, à qui j'ai transmis un peu la peur qu'il allait lui arriver quelque chose, et tout se passait bien, donc normalement tout devait aller bien, et je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas.
À quel moment vous êtes dit, quelqu'un vous a dit, qu'est-ce que votre entourage a fait ? Parce que j'imagine qu'ils ont réagi, enfin votre conjoint déjà. Mais...
L'entourage était compliqué dans cette période parce qu'on ne pouvait pas beaucoup la voir. Donc on vivait avec la belle famille, on s'est confiné pendant 3 mois avec la belle famille, ce qui était mieux que d'être seule dans un appartement de 25 mètres carrés à Paris, avec un enfant. Mais ça ajoutait aussi des contraintes par-dessus, ça ajoutait de la pression et de l'impression de mal faire, constamment. Et l'entourage, je pense, ne s'est pas rendu compte vraiment de la détresse. Se rendaient compte, a posteriori, ils m'ont dit que oui, t'étais nerveuse, c'est vrai que tu ne le lâchais pas, ça n'allait pas. Mais sur le moment, tout était un peu bousculé. Et moi, j'ai mis du temps à me rendre compte aussi que ça n'allait vraiment pas. Que ce n'était pas juste du stress de jeune maman.
Oui, c'est ça. Et parce que vous ne pouviez pas discuter, même par téléphone, avec d'autres jeunes mamans que vous connaissiez éventuellement ou que...
Non, assez peu. Dans mon entourage, pas d'autres amis qui ont eu des enfants, un petit peu de famille, mais ça faisait déjà un moment. Donc non, j'étais assez seule. Puis ça provoque l'isolement en général. Plus on est mal, moins on ose en parler parce qu'on se dit que c'est pas normal. Et malheureusement, on s'isole avec soi-même, on rumine et la dépression s'installe.
Et après, ça s'est il y a eu d'autres manifestations physiques, j'imagine, à force
Oui, tous les jours je pleurais, j'étais affreusement angoissée, je dormais pas, j'avais des pensées sombres et j'avais le sentiment d'être toujours enfermée, de pas pouvoir m'en sortir.
Déjà avec le confinement, on était de fait enfermés en plus. Ouais, parce qu'à la limite, enfin, je sais pas, vous auriez pu. Est-ce que vous êtes sportive ? Est-ce que vous auriez pu faire du sport pour vous défouler ou des choses comme ça en fait ? Mais là.
Oui. Puis ça donnait la sensation que c'était toutes ces petites choses un peu égoïstes que j'ai plus le droit de faire. Il y a l'enfant, faut allaiter, faut être là.
Ah oui, vous allaitiez. Ça s'est passé comment ça, l'allaitement ?
Ça s'est très bien passé, mais ça ajoute aussi un rapprochement forcé. Une contrainte d'être toujours un peu disponible avec l'allaitement à la demande, comme on pratique maintenant.
Ouais. Oui, ça se passe pas toujours bien d'ailleurs. Hein. Enfin, parfois.
Non. Non, moi ça se passait bien, mais c'est vrai que c'était une contrainte en plus. Ouais.
Et votre fille, elle dormait, enfin, sinon.
Oui, globalement.
De fait. Oui. Elle se réveillait pas tous les 5 minutes.
Bon, comme les bébés, quoi. Les premiers mois, c'est toujours un petit peu chaotique, mais non, c'était une enfant facile.
En plus.
En plus.
Bon, donc c'est là qu'on se dit. Et quand est-ce, à quel moment il y a eu un déclic? Enfin, je sais pas s'il y a eu un déclic, mais.
Il y a eu un déclic à force de. Après, j'ai déménagé en Bretagne. Donc un petit peu au cours du deuxième confinement, donc on s'est retrouvés tous les trois dans une nouvelle maison, dans que du nouveau, et on rencontrait pas grand monde à cause des confinements, et je me sentais de plus en plus isolée, et je commençais à faire des crises de panique, des crises d'angoisse, des moments où plus rien n'allait. Et le déclic, c'est vraiment passé une journée où ma fille était un petit peu compliquée, mais comme ça peut arriver certains jours, ça pleurait beaucoup.
Elle faisait ses dents peut-être, ou un truc du genre.
Quelque chose comme ça. On se baladait vers la plage avec mon compagnon parce que je tenais plus en place. Et là, je suis partie. Je suis partie à pied le long de la plage de Pantresque, qui est longue. Mm-hmm. Et je les ai laissées, je suis partie très vite. Et là, dans ma tête, c'était tout flou, c'était soit je partais, mais sans aucun sens, sans bagage, sans rien. Mm-hmm. Soit j'allais me noyer quelque part.
Ah oui, c'est vraiment un choix assez...
C'était radical.
Radical, oui.
Mais c'était un moment d'absence, un moment ailleurs. Et j'ai fini par revenir vers eux. Et là, j'ai dit à mon compagnon, faut que je fasse quelque chose. C'est plus possible, je peux plus tenir, je n'y arrive plus, il faut que j'aille voir quelqu'un. Donc j'ai cherché quelqu'un, et en Presqu'île, il y avait assez peu de psychologues à ce moment-là. Quelques-uns se sont installés entre-temps. Dû au confinement, après les Covid, il y a eu un peu une recrudescence de dépression et un besoin plus grand, donc c'est très bien. Moi, je ne savais pas trop par où commencer, par où chercher, donc j'ai contacté, j'ai ouvert les pages jaunes sur Internet, et j'ai cherché psychologue, et j'ai contacté la première que je trouvais dans le coin.
Et vous êtes bien tombée tout de suite, ou vous avez dû changer ?
Je suis bien tombée. Ouais, je suis bien tombée, c'était un peu un hasard, je l'ai appelée. Je lui ai dit, je suis en détresse psychologique, ça ne va plus. Et elle m'a rappelé tout de suite. Elle n'avait pas encore commencé son activité. Elle était encore dans le sud de la France. Elle allait s'installer. Elle était étonnée que quelqu'un la contacte. Et elle m'a dit, bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais vous prendre en téléconférence avant de m'installer parce que ça a l'air vraiment urgent. Donc, on s'est d'abord eu par téléphone. Et dès qu'elle s'est installée, on s'est rencontrés. On a commencé la thérapie ensemble, à discuter.
Et quelle était sa méthode ?
Elle m'a écoutée surtout, elle a commencé à me donner des exercices.
C'est plutôt comportemental, c'est une psychologue comportementale plutôt ? Parce que quand on donne des exercices, c'est ça ?
Oui, c'était pas des médicaments. Mm-hmm. Moi, j'avais très peur de ça, justement. J'ai toujours retardé, j'avais parfois des comportements anxieux, des petites dépressions mélancoliques. Mais j'osais pas aller voir de psy, je voulais pas être sous des médicaments, être différente. Mm-hmm. Du coup, j'étais contente de ne pas non plus suivre une thérapie tout de suite avec un psychiatre qui m'aurait certainement mis sous médicament. J'avais envie de...
C'est vrai que ça peut aider. Hein.
Ça peut aider, ouais. Je pense que ça peut être nécessaire dans certains cas, complètement. Moi, j'avais envie de travailler le truc et d'aller au fond directement de la cause et d'essayer de...
Et c'est là que vous avez identifié le fait que vous aviez déjà fait des dépressions pas soignées, ou est-ce que vous vous l'étiez dit avant
Je me l'étais dit avant, j'avais été voir des généralistes pour tirer un peu une sonnette d'alarme en disant j'aimerais peut-être me faire interner, j'aimerais un...
Ah oui,
ouais, il y a
quand
eu
même.
Des périodes un peu sombres, mais c'est compliqué en France. C'est compliqué, on en parle peu, en général on attend que les gens fassent une tentative de suicide pour les interner, sinon c'est pas remboursé, ou des cliniques de jour, ou de l'appui psychologique comme ça, mais rarement un travail de fond, malheureusement. Mais ça évolue.
Mais
ça.
On vous avait peut-être proposé les médicaments, mais
oui,
que vous ne vouliez pas prendre.
Non, je voulais travailler différemment que seulement enfermer, on va dire, les sentiments sous les médicaments.
Alors, les exercices de la psychologue, qui est citée d'ailleurs dans le livre, on peut donner son nom.
Tout à fait, Emeline Brachet.
On l'a déjà interviewée dans un autre cadre, d'ailleurs, sur Transistor. Dans la bande dessinée, puisqu'il y a quand même cette bande dessinée Baby Bleu, je rappelle, vous dessinez des outils, c'est ça, hein, c'est les petits exercices. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, enfin, juste pour nous donner une idée
Mais en plus, c'est vraiment la naissance de cette BD, c'est ça. C'est que je suis arrivée vers elle et j'avais du mal à parler. Et elle m'a dit, mais votre métier, c'est de faire de l'image.
Mais
pourquoi
oui.
vous ne répondriez pas à des exercices que je vous donne, mais comme vous voulez, d'une manière plastique, en dessinant, en tenant un carnet. Moi, à ce moment-là, je ne créais plus trop. Je travaillais, donc je faisais de la création pour travailler, pour gagner mon pain, mais plus de la création personnelle.
Vous répondiez à des commandes, quoi.
C'est ça. Je me sentais plus apte depuis plusieurs années déjà à vraiment créer. Et Elle m'a donné ses exercices. C'était, par exemple, une liste de valeurs qu'on retrouve dans ma bande dessinée.
Ah oui, qui est impressionnante.
Oui,
un tableau. Il y en a combien, d'ailleurs, j'ai pas compté.
Je sais plus, quelques centaines.
Ouais, c'est des mots, enfin, ça se transforme en nuage de mots. Ouais, c'est...
Et donc, elle m'a donné ça, quelques... Ouais, se représenter le masque que j'avais l'impression de porter. Et tout de suite, ce petit personnage, cette tache de couleur bleue qui incarne la dépression dans mon livre, et s'est mise à parler à ma place. Vraiment, j'ai commencé à faire les premières planches sur un carnet. Mmh. Et ça m'a permis de m'exprimer, vraiment.
Donc, vous êtes dessiné sous forme, alors je décris pour l'auditoire, d'un rond bleu. Alors, c'est une référence à un livre pour enfants qui est vraiment très connu. Enfin, moi, je l'ai lu quand j'étais petite.
Oui, une référence complètement inconsciente. Je connais ce livre, j'adorais ce livre enfant, petit jaune, petit bleu, donc c'est deux petites taches de couleurs. Et ça nous apprend la tolérance à travers ces deux formes de couleurs très simples.
Alors, j'ai plus noté quel est l'auteur d'ailleurs de petit jaune, petit bleu.
J'ai un trou de mémoire.
Oui,
aussi.
Bon, bah, on le mettra dans
l'auteur
l'article.
Italien. Oui. Et oui, j'ai pas tilté au début. J'ai fait donc ce premier exercice que j'ai montré à ma psychologue qui m'a dit: oh, c'est génial! Ça pourrait te montrer, ça. Puis elle me fait: ah, ça me fait penser à petit bleu, petit jaune. Je dis: mais oui, évidemment, j'adorais ce livre enfant. Et d'autant plus que ma fille est personnifiée par une tache jaune dans le livre, donc ça s'appelle Jaune. Ouais, totalement inconsciente comme référence, mais parfaitement assumée, parce que je trouve que faire passer des messages par des formes graphiques simples, ça permet à tout le monde de se les approprier. Et ça me permettait, ouais, de ne pas me personnifier. J'aurais c'est pu ça. Me dessiner, moi, oui. Mais je n'avais pas envie de ça.
Ça évite de détourner l'attention, on va dire, quoi. Enfin, le dessin est important, hein, mais... Et puis le bleu, bah, évidemment, c'est une couleur un peu symbolique, parce qu'on parle de baby blues, même s'il faut bien distinguer les deux. Hein. Oui. Vous pouvez nous réexpliquer, d'ailleurs, la différence.
Oui, le baby blues, c'est... c'est 2-3 jours après l'accouchement. Souvent, c'est une descente hormonale, un changement d'hormones brutes qui provoque de la tristesse, un sentiment de désarroi, mais ça passe. Et il faut que ça soit surveillé parce que ça ressemble à un début de dépression postpartum. Quand ça passe pas, il faut s'en inquiéter. Si cette tristesse, cette angoisse, cette perte de repère perdure dans le temps, là, c'est plus seulement la descente hormonale. C'est quelque chose qui s'est installé et qui peut se transformer en dépression postpartum. Mmh.
Ça, on en entend plus parler du baby blues, finalement.
Oui.
C'est un peu plus connu. Oui. Mais donc, en fait, vous commencez à dessiner. Donc ça, c'est c'est dès 2020 ou un
non.
peu
plus... Non. J'ai mis un an à consulter quelqu'un, à peu près.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc, au courant 2021, j'ai commencé à dessiner, à mettre ça sur le papier, puis ça sortait bien. Ça venait tout seul, ça me réveillait la nuit, genre « Oh, j'ai une idée
!» Ah oui, donc là, c'était un réveil positif.
Oui, c'était un réveil positif. Et ça a vite pris forme, et assez vite, avec la psychologue, on s'est dit que c'était quand même montrable, que ça pourrait être même un bon support de discussion. Donc, j'ai démarché des maisons d'édition. J'ai proposé une première salve... plein de maisons d'édition françaises, plus ou moins intéressées, mais des réponses négatives. J'ai retravaillé mon dossier. Je l'ai représenté plusieurs mois après en allant chercher un peu plus des maisons d'édition auxquelles je n'avais pas pensé. Donc plus indépendantes, un peu plus engagées. Donc c'est les éditions Lapin qui ont répondu tout de suite « on adore, on prend ».
Ils font plutôt des sujets de société comme ça d'habitude ?
Ouais, ils ont une collection qui s'appelle « Cause encore ». Et qui est très très bien, qui est engagé sur la santé mentale, sur, on va dire, le traitement des minorités, les effacés, donc la cause LGBTQR+, les personnes en situation de handicap. En fait, ils aiment bien donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et leur collection est vraiment très belle.
Oui, c'est vrai.
Regardez. Ouais. Oui, oui. C'est une belle maison d'édition avec des belles valeurs.
Et donc, quand vous les aviez contactés, c'était pas fini, évidemment.
Non.
Ouais, c'est ça.
J'avais un tiers de la BD, presque.
Ah oui, quand
déjà.
Même.
Ouais. Mm-hmm. J'avais bien mon idée. Je savais pas encore où ça allait, parce que j'étais pas encore sortie de la dépression.
C'est ça.
Et du coup, le reste s'est fait petit à petit. Et à la fin, bah, ça allait mieux. Donc, c'était étonnant de continuer à finir la BD et de se replonger un peu dedans. Mais c'était un... Ça m'a vraiment permis de dépasser aussi ce moment-là.
Il y a un moment clé, enfin, que je trouve dans la BD, c'est quand vous dites « donc j'ai tout le temps peur qu'elle meure mm-hmm. ». Et en fait, un moment, je me dis « mais en fait, c'est parce qu'au fond, j'ai plutôt peur d'avoir envie qu'elle meure ». Donc c'est ça qui est terrible, on se dit « on a envie que son enfant meure ». Et c'est, quelque part, ça vous a fait du bien de formuler ça.
Oui, de l'admettre. Mm-hmm. C'est ce que m'a fait comprendre ma psy, c'est... c'est que la plupart des hontes qu'on a, qu'on n'admet pas, sont celles qui nous rendent vraiment malades. Alors qu'au final, une fois sorties de nous, elles ne sont plus si graves. Et ouais. Ça a vraiment fait ça. Moi, j'ai admis d'un coup, bah oui, c'est pas que j'ai peur qu'elle meure, c'est que j'ai peur d'avoir envie qu'elle meure. Et pouf, j'avais plus peur qu'elle meure. Ça a vraiment fait un déclic instantané du moment où je me le suis dit et où je l'ai dit.
Mais en même temps, c'est un peu indissociable, j'ai envie de dire, de ma propre expérience de mère, mais c'est que quand on donne la vie, tout à coup, on se rend compte qu'on a aussi donné la mort, puisque nous sommes tous malheureusement mortels. Donc, c'est une responsabilité écrasante. Mmh. Donc, quelque part, on se dit, bah oui, finalement, ça irait plus vite si elle mourait maintenant. Enfin, je ne vais pas angoisser pendant, 40 ans. Enfin, en fait, c'est tout à fait naturel, finalement. Mmh. C'est peut-être ça aussi qu'elle vous a dit.
Oui, mais c'est vrai que ça donne l'impression que c'est honteux, parce que on se dit pas ça quand on...
Ouais, mais c'est une telle responsabilité, il faut se le formuler, en fait, c'est ça. Et puis, il y avait les autres injonctions dont vous parlez, enfin, les injonctions plus sociales, sociétales, c'est ça qui pèse sur une femme.
Rester femme, rester une bonne amie, quelqu'un d'agréable, rester créative, enfin, pour moi, rester une femme artiste, rester désirable, tout doit être fait en même temps, alors que les premiers mois, finalement, on est un peu consacré 100% à l'enfant. Puis on ne sait plus trop qui on est non plus. Moi, ça m'a remis en question. Je ne savais plus qu'est-ce que j'avais envie de faire. Tout court, quoi, de mes journées. Qu'est-ce que je fais le matin quand je me lève? Qui je suis quand j'ai du temps libre?
Ouais.
J'avais un peu tout oublié.
Ouais, mais c'est ça, la dépression, on n'a plus trop envie de rien aussi. Et donc, crise d'identité, carrément, quoi.
Oui, complètement, ouais.
Et vous pensez que vous avez finalement changé d'identité ou pas tant que ça?
Je pense que j'ai mis du temps à retrouver une identité qui m'était propre. Et oui, elle a un peu changé. Je ne saurais pas dire exactement, mais je pense que je ne suis plus tout à fait la même. Mais que j'ai réussi quand même à me retrouver. Mais il a fallu du temps.
Ouais. Et donc la BD, alors, quand est-ce, à quel moment de la BD vous êtes senti mieux? Comment ça s'est fait?
Ça, c'est dur à dire. Un peu progressivement. Je ne me suis pas dit « je me sens mieux ». C'est juste que je me sentais moins angoissée. Bon, j'avais plus peur constamment, je retrouvais des envies de faire des choses. Donc, dessiner avec la BD, mais aussi voir des gens, discuter, m'engager associativement, reprendre une vie à côté.
Bah, vous vous installiez aussi peut-être en Bretagne, vous commenciez à prendre racine aussi chez nous peut-être.
C'est ça.
Et elle grandissait.
Oui, et ça devenait plus facile aussi.
C'est vrai, ouais. Mais ça dépend, hein. C'est pas toujours le cas.
C'est vrai. Non, mais ça demande moins de surveillance constante, ça demande... On a plus de liberté, plus ils grandissent, je trouve. Plus on peut retrouver un peu de notre vie à nous, et ça, c'est agréable.
Et maintenant, vous considérez que vous êtes guérie, entre guillemets,
De la dépression postpartum, oui. Après, je pense qu'il faut que je sois plus vigilante, et j'ai appris à l'être. Maintenant, quand ça n'ira plus, j'aurai plus peur de demander de l'aide. Parce que je pense qu'il faut toujours rester un petit peu vigilant quand même quand on a un terrain comme le mien un peu angoissé ou un peu dépressif. Mais ça m'a fait progresser là-dessus. J'ai plus peur de demander de l'aide si j'en ai besoin.
Quand est-ce que vous avez retrouvé le sommeil, par exemple, si vous savez le dire?
C'est un peu compliqué. Quand j'avais mieux dormi aussi. un vrai sommeil, ça m'a mis un peu de temps, un an ou deux, je dirais.
Ouais. Donc vous diriez que finalement, cette dépression postpartum, elle a duré à peu près 2 ans, en fait, quand même.
Ouais, globalement.
Et c'est, alors j'y connais rien, mais c'est une moyenne. Enfin, qu'est-ce qu'elle vous a dit, par exemple, Emeline Brachelet?
Alors ça, je ne saurais pas dire. Elle se manifeste tellement différemment suivant les personnes. Vu qu'on en parle peu, on recueille pour l'instant peu de témoignages précis, alors que ça touche une personne sur 3, c'est gigantesque.
Oui,
hommes et femmes confondus.
Ah oui, parce qu'il y a des hommes qui font des dépressions postpartum.
Ouais. Ce n'est pas que un terrain hormonal, parce qu'on dit souvent c'est lié au baby bleu qui dérape. Mais il n'y a pas que ça, il y a le bouleversement d'une vie aussi.
Oui, d'organisation, tout simplement.
C'est ça. Ouais. On attend ce qu'elle dit très justement, Emeline Brachet, c'est qu'on a plein d'attentes. Il n'y a pas juste un enfant qui naît, il y a dedans un enfant qu'on espère qu'il soit, puis il y a le parent qu'on espère être, le parent que les autres veulent qu'on soit. On amène plein de gens avec nous dans la parentalité. Et plein de choses, plein d'attentes, ça peut créer aussi des dissonances entre ce qui se passe vraiment et ce qu'on croit qu'il va se passer.
Je préviens, on est quasiment toujours déçu par son enfant. Et c'est normal aussi. Et ce n'est pas grave. Et puis après, on peut être fier.
C'est ça.
Et Et oui, de ce que vous en savez, c'est quoi les autres formes de dépression postpartum
Assez souvent, ça peut se manifester par un détachement. Il y a une belle bande dessinée qui s'appelle La Remplaçante, si je me souviens bien, qui parle plus de cet aspect-là. Parfois, oui, c'est devenir incapable de s'occuper de son propre enfant. Ça arrive assez souvent.
Genre, on n'en a pas envie, quoi.
On n'en a pas envie, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Quand on va au berceau, on se voit de l'extérieur et on n'y arrive pas, en fait. Et moi, c'était l'inverse. C'est aussi pour ça que ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille. Parce qu'on m'a plus parlé de cette forme-là.
Exactement. Mais d'ailleurs, je crois que les médecins ont une sorte de protocole à la naissance d'un bébé pour voir s'il y a les signes d'attachement de mère-enfant.
Bien sûr, oui. Oui, et c'est vrai que... Après, moi, c'était vraiment particulier comme contexte de naissance dû au Covid.
Ben c'est ça.
On a été mis vite à la porte de la maternité, ce qui est normal aussi. Ils étaient un peu débordés. Mais il a manqué toutes ces choses-là. Normalement, ces vigilances et le fait que les sages-femmes viennent normalement à domicile après pour suivre pendant plusieurs jours.
Parce qu'elles, elles peuvent détecter les dépressions
postpartum. Elles sont là aussi pour ça. En fait, il y a beaucoup de choses pour se faire aider dont je n'avais pas conscience.
Et depuis, vous n'avez pas participé à des groupes de parole ou des choses comme ça ?
Oui, à Pont-de-Buis, à la Maison de l'Enfance, où ils organisent des papotés, des moments de parole entre parents. Donc, je participe à un pour présenter aussi ma BD. Et, je sais qu'il en existe beaucoup.
Et vous avez croisé donc d'autres femmes peut-être qui ont fait des dépressions postpartum. Alors, qu'est-ce qu'elles vous ont dit ?
Ça, c'est assez chouette. Avec le livre, j'ai recueilli, sans le vouloir, beaucoup de témoignages, femmes, hommes, tout âge. Et c'est très intéressant. Mon témoignage le plus âgé a plus de 90 ans et c'est un monsieur qui m'a écrit une lettre en voyant un article dans La Voix du Nord sur ma BD, qui s'est reconnu dedans, donc c'est très touchant. Des personnes qui m'ont parlé, plus âgées, qui disaient « Ah, ça se disait pas de mon temps ». Parfois des premiers enfants, deuxième enfant, troisième enfant, ça peut arriver à n'importe quel moment.
Ah oui, c'est pas forcément le premier.
Pas forcément le premier, non. Et les gens se confient et sont contents que la parole se libère autour de ça.
Et il y a peut-être des suicides, enfin, malheureusement, quand c'est pas soigné. Enfin, je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus. Mais...
Oui, il y a des statistiques même assez angoissantes. Depuis quelques années, le nombre de suicides a énormément augmenté.
Lié à la dépression
Il faut savoir que c'est la première cause de mortalité chez les femmes après un accouchement. Le suicide dû à un postpartum non traité. Donc c'est vraiment énorme.
Ah oui. Donc c'est ce que vous avez voulu faire, j'imagine, dans cette BD. Enfin, est-ce qu'il y avait d'autres messages à transmettre
Bah oui, moi je voulais ouvrir la parole là-dessus. Pas que pour les femmes, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu universel, juste des taches de couleur, pour que les gens qui connaissent ça ou qui voient dans leur entourage quelqu'un qui a l'air de glisser vers un terrain dangereux, puisse s'en rendre compte et l'orienter vers d'autres personnes. Déjà, ouvrir la parole. Et à la fin du livre, Emeline Brachet a écrit aussi toute une ouverture. Et c'est très intéressant qu'il répertorie, c'est pas exhaustif, mais un peu toutes les structures qui peuvent aider. Donc les groupes de parole qui existent dans les municipalités. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de lieux pour les parents qui ont besoin, qui se sentent un peu perdus pour discuter, parce qu'ils sont pas seuls, en fait, du tout.
Oui, c'est ça. Là. C'est vrai qu'en plus, en Presqu'île de Crozon, on commence à avoir pas mal d'associations et de structures qui s'occupent de ça, entre autres, hein, de ces sujets-là. Il y a beaucoup de sujets liés à la famille. C'était votre première BD. Hein,
oui.
Ça vous a donné envie de continuer à faire de la BD ? Enfin, vous êtes graphiste, mais bon...
Je travaille actuellement sur ma deuxième BD, qui n'aura rien à voir. Ouais. Je ne ferai pas de deuxième dépression pour faire une deuxième BD.
Non, si possible.
Non. Voilà, c'est un travail en cours, plus axé sur de la science-fiction, de l'anticipation écologique et l'éco-anxiété.
Et oui, parce que ça, c'est peut-être aussi un facteur de dépression, c'est d'avoir peur pour l'avenir de son enfant aussi,
non fait, ouais.
En dehors du fait qu'il peut mourir.
Parfaitement, oui.
Plus on est éco-anxieux et plus on a peut-être de risques, des facteurs de risque.
Oui, c'était mon cas, et avec un questionnement avant de se dire enfant ou pas enfant dans un monde comme ça.
C'est ça. Donc, vous avez là retrouvé votre créativité, donc point, vous avez retrouvé une certaine sérénité. Alors, j'ai une question un peu indiscrète, mais enfin, je ne sais pas si vous projetez d'avoir d'autres enfants, mais est-ce que vous vous sentiriez capable d'avoir un deuxième, une deuxième
Actuellement, non. Je ne projette pas d'autres enfants. Je pense quand même que j'aurais peur, si j'avais un autre enfant, de refaire une dépression. Après, je saurais que si je choisis d'avoir un autre enfant, je ferai plus attention à des signes précurseurs. Mon compagnon fera plus aussi attention à certains signes. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet.
Ok, très bien. Eh bien, on va vous remercier. On va rappeler donc la BD, ça s'appelle Bibi Bleu. C'est aux éditions Lapin. On trouve ça dans toutes les bonnes librairies. On pourra même vous voir directement. Enfin, vous avez peut-être des signatures prochaines à nous annoncer, non?
À venir mi-octobre à Guanilly-au-Fou, mais je n'ai pas la date. Donc voilà, à suivre.
Ça sera dans le cadre d'un événement un peu plus vaste sur la santé mentale, je crois. Et les livres, pas forcément que la BD d'ailleurs. Et on peut vous rencontrer en tout cas à la Poudrerie à Pont-de-Buis. Merci beaucoup, Marie-Onel. À bientôt.
À bientôt.